Et c'est l'heure du journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Europe continue à se crisper en prévision du sommet prévu dimanche à Bruxelles sur la question des migrations. Les positions des capitales européennes se font de plus en plus fermes et la question de l'installation de hotspots en dehors des frontières de l'Union revient dans le débat, même si leur principe même est contesté par les acteurs de terrain. Explication de Fanny Bouvard. Dans ce journal également, la satisfaction d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec. La Grèce va sortir des plans d'aide européens, même si l'austérité se fera encore sentir longtemps. Reportage d'Angélique Kourounis. Et puis en France, la présentation officielle de l'école politique de Marion Maréchal Le Pen à Lyon, l'ICEP. Marc Potvin y a assisté pour nous. Deux jours avant le mini-sommet européen consacré à la question des migrations et de leurs conséquences politiques sur le vieux continent, les prises de position et les mises en garde se multiplient. Angela Merkel, cet après-midi, prévient qu'il ne sera sans doute pas possible dimanche de trouver une solution globale et d'ensemble, tant les 28 semblent divisés. Exemple de proposition en provenance de Sofia aujourd'hui, la fermeture immédiate des frontières extérieures de l'UE aux migrants, accompagnée de la mise en place de centres en dehors de l'Union pour faire le tri entre migrants économiques et réfugiés éligibles à l'asile. Cette dernière proposition rejoint celle évoquée dans la semaine par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Bonsoir Fanny Bouvard.
Bonsoir.
La question de savoir si cette idée déjà ancienne est la bonne se pose toujours. Et dans ce débat, Fanny, l'exemple d'Agadez au Niger est intéressante. Un hotspot y avait été envisagé, mais l'idée a vite été abandonnée.
Oui, Agadez, c'est la dernière étape des migrants africains avant d'entrer dans le Sahara. La ville voit arriver chaque année des milliers de personnes rêvant d'Europe. Alors examiner sur place les demandes d'asile semblait logique. Mais pour Mano Agali, l'un des députés de la région, ça n'était pas réaliste.
La question des hotspots est mise en veilleuse, je pense. En fait, dès que ça a été annoncé, ça a attiré beaucoup de personnes, non seulement des personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais des gens qui viennent du Soudan et du Tchad.
Les migrants soudanais et tchadiens seraient en moyenne 2000 dans la ville. Mais jusque-là, ils n'y passaient pas du tout. Ils ont donc changé de route, pensant obtenir facilement le statut de réfugié.
Il faudra leur expliquer que ce n'est pas automatique. Parce que pour eux, ils arrivent, ils ont le droit d'asile, alors qu'il y a un tri à faire. C'est une bonne idée d'avoir les hotspots en Afrique, mais il faut les préparer. Et surtout, une zone comme Agadez, où c'est l'entrée du désert, si ce n'est pas le désert déjà totalement, il n'y a pas les infrastructures, c'est ça où ça pose problème. La santé, l'eau, l'électricité, il y a beaucoup de coupures d'électricité à Agadez.
D'autant qu'Agadez fait face à une nouvelle problématique, avec des migrants qui prennent le chemin du retour, fuyant la Libye. Des migrants pris en charge dans la ville, dans un centre de l'Organisation internationale pour les migrations. Mais pour l'instant, si l'idée d'un hotspot à Agadez n'est pas abandonnée, c'est bien à Niamey, la capitale, que l'OFPRA se déplace. Sur une semaine, des agents français rencontrent des demandeurs d'asile déjà entendus et sélectionnés par le HCR.
Merci Fanny Bouvard. En Méditerranée, le navire Lifeline, affrété par l'ONG allemande du même nom, est toujours dans le flou après avoir été refoulé par les autorités italiennes. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini demande via un message sur Twitter à Malte de l'accueillir. Pour l'instant, la Valette n'a pas réagi. 239 réfugiés sont à bord. La Grèce va-t-elle réellement pouvoir sortir d'un cycle incessant d'austérité, comme l'a déclaré tout à l'heure son Premier ministre Alexis Tsipras? Il se félicitait par ces mots de l'accord trouvé et signé cette nuit avec les créanciers du pays. Un accord qui devrait permettre de sortir des plans d'aide qui contraignent la Grèce depuis 2010. Mais si les choses semblent évoluer et s'améliorer sur le papier, la fin de la crise ne se fait pas encore sentir, loin s'en faut, dans la vie quotidienne des Grecs et dans l'économie réelle du pays. À Athènes, le reportage d'Angélique Kourounis.
Le pays s'est réveillé groggy ce matin. Toutes les émissions matinales, à la télé ou la radio, passaient en boucle la sortie de crise annoncée en fanfare cette nuit à Bruxelles. Le secrétaire général du Syriza, le parti de la gauche radicale au pouvoir, défend à l'antenne cet accord.
Je crois que cet accord va être valorisé dans les prochains jours pour le développement du pays. Et le pilier de cette croissance sera basé sur des salaires très bas et un marché du travail dérégulé.
Dans la rue, la question qui domine, c'est est-ce que les nouvelles mesures qui prévoient de nouvelles baisses des salaires et des retraites en janvier prochain seront annulées ou pas? Madame Poli, 70 ans, visiblement éprouvée, l'espère.
Je suis tellement désespérée, je ne sais rien du tout. J'ai 70 ans et c'est une personne qui était très politisée qui vous parle.
En fait, les Grecs sont comme Iasonas, cordonnier d'une quarantaine d'années dans un quartier très populaire à Kypseli, très méfiant.
Je suis inquiet pour demain, pour ce qui va arriver. Est-ce vrai? Est-ce faux? Quelle est la réalité? Pendant 8 ans, on était en crise. Et là, d'un seul coup, on sort? Non, ce n'est pas possible. Maintenant, quelles nouvelles mesures ils vont prendre? On ne sait pas. En tant que profession libérale, je me pose des questions. On verra.
La tutelle du pays est prolongée jusqu'en 2057. Le remboursement de la dette reporté, lui, de 10 ans, mais il est toujours là. Et les mesures d'austérité vont se poursuivre. Aussi, si le futur retour sur les marchés du pays est salué par les créanciers, pour les Grecs, il ne change pratiquement rien à leur quotidien.
Angélique Kourounis. En Inde, l'actualité est une nouvelle fois marquée par une affaire de viol dans l'état du Jharkhand, nord-est du pays. 5 femmes ont été collectivement agressées et violées, visiblement en mesure de rétorsion en raison de leur engagement militant. Les 5 victimes font partie d'une ONG. Elles étaient venues jouer une pièce de théâtre pour sensibiliser au problème du trafic des êtres humains. Elles ont visiblement été prises pour des agents du gouvernement central. Les explications de Tarash Legal.
C'est une zone où les tensions avec l'État sont particulièrement vives en Inde, explique la journaliste Vaidjuna Ravane. Les tribus y sont quasiment en guerre avec les autorités.
Le gouvernement a souvent essayé de prendre leurs terres, de piller leurs biens et laisser l'industrie entrer pour exploiter les richesses minerais sans rien donner au tribal. Alors, les gens du tribu, les leaders de ce mouvement, avaient averti les femmes en disant que vous ne devez pas entrer chez nous. Et elles ont insisté, ça ne justifie en aucun cas les violences qui ont été pratiquées contre ces femmes.
Mais cela montre que ces agressions ont une dimension politique, tout comme il y a quelques mois le viol épouvantable d'une fillette musulmane au Cachemire par 8 agresseurs hindous.
On a retenu cette petite fille de 8 ans dans un temple et on l'a droguée, on l'a violée. Le but était de terroriser ce tribu nomade pour qu'il ne revienne pas. Alors là encore, on a un exemple de l'utilisation de viol comme un acte terroriste. Et il y a eu aussi quelque chose qui était absolument étonnant et tragique, c'est que beaucoup d'avocats de cette région se sont soulevés en faveur des gens qui avaient commis le viol. Donc il y avait un sentiment dans la communauté tout entière hindouiste que quelque part, il fallait chasser ce tribu et que tous les moyens qui ont été utilisés étaient justifiés.
Alors de tout temps, ajoute Vaidjuna Ravane, le viol est pratiqué comme une vengeance dans les campagnes quand on veut humilier une famille, souvent de basse caste, intouchable. Mais les choses commencent à bouger lentement. 40 000 plaintes pour viol ont été enregistrées en 2016, c'est presque un progrès. Les médias en parlent et la police ne peut plus, comme bien souvent autrefois, ignorer les faits.
Reportage de Tarash Legal. En Arabie Saoudite, ce dimanche 24 juin sera une journée historique de celle qui voit les choses évoluer. Là aussi, peu à peu, le dernier pays à interdire aux femmes de prendre le volant va un peu changer en autorisant certaines femmes à passer le permis et à conduire. Bonsoir Clarence Rodriguez.
Bonsoir Benoît.
Vous avez vécu 12 ans à Riyad, où vous avez été notre correspondante, sans jamais avoir pu prendre le volant sur les routes et dans les rues saoudiennes. Alors Clarence, qu'est-ce qui va réellement changer dans la vie quotidienne de toutes ces femmes?
Alors cela va forcément changer pour toutes les Saoudiennes qui disposent d'un permis de conduire obtenu à l'étranger ou dans les auto-écoles saoudiennes. Elles vont pouvoir passer de la banquette arrière, longtemps occupée, au volant dès dimanche prochain. Elles n'auront plus besoin de débourser environ 800 euros par mois pour faire appel à un chauffeur étranger. Il faut dire que de moins en moins de foyers peuvent s'offrir ce luxe à cause de la crise économique passée par là depuis fin 2014. Elles n'auront donc plus besoin de demander à leur tuteur, père, mari, frère ou fils, lorsque celles-ci sont veuves, de les accompagner au centre commercial, chez le médecin ou à leur travail. En clair, elles vont enfin pouvoir conduire leur vie. Cela concerne pour l'instant un petit millier de femmes sur une population féminine de 10 millions dans le royaume. Autant dire pas grand monde. En revanche, toutes celles issues de familles profondément conservatrices ne pourront pas conduire et pour cause. Leurs tuteurs mettent un frein à tout ce qui représente une avancée sociétale, à l'endroit des femmes. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui s'opposent aussi fermement au travail de leurs femmes ou aux filles. Alors ce dimanche, vous ne verrez pas au volant, Benoît, et c'est regrettable, ces ferventes militantes au droit de conduire, celles qui ont pris des risques inconsidérés dans le passé pour que ce 24 juin soit un jour historique. Alors je veux parler de Madia, Loujain, Iman Aziza. Il y a un mois d'ailleurs, le prince héritier Mohamed bin Salman les a incarcérés, ainsi que d'autres militants des droits de l'homme pour les faire taire. La presse locale les a même traités d'espionnes au profit de pays étrangers.
Est-ce que ça veut dire, Clarence, que le prince héritier tient un double langage?
Bah écoutez, on peut en effet parler de la politique du paradoxe menée par Mohamed bin Salman. D'un côté, il veut donner l'impression qu'il fait bouger les mentalités, moderniser un royaume longtemps sclérosé, puis de l'autre, il applique une politique de répression en procédant à des purges. Rappelez-vous, ces derniers mois, il a envoyé en prison des princes, des intellectuels, des religieux, des ministres et tout récemment des militantes au droit de conduire. Tous n'adhèrent pas à la politique du jeune prince qui se comporte finalement comme un autocrate, il faut le dire. À ce jour, MBS phagocyte tous les pouvoirs et il veut surtout s'attribuer la paternité de la conduite des femmes et gare à celles et ceux, on l'aura compris, qui osent se mettre sur sa route.
Merci Clarence Rodriguez. En France, Marion Maréchal Le Pen, qui préfère désormais qu'on l'appelle Marion Maréchal tout court, a présenté ce matin à la presse l'ICEP, son Institut de Sciences Sociales, Économiques et Politiques, un établissement d'enseignement supérieur situé à Lyon, dans le quartier de la Confluence. Il recrutera à partir de la rentrée ses étudiants à Bac plus 3 ou en formation continue autour des valeurs, je cite, de l'enracinement, de l'éthique, de l'engagement et de l'excellence. De quoi séduire les tenants de la droite hors les murs. Reportage à Lyon de Marc Potvin.
12 personnes font partie du conseil scientifique de l'école, parmi elles le fondateur de la déclinaison britannique du site ultra-conservateur Breitbart. Un autre membre vient de la droite classique, Marion Maréchal se charge des présentations.
Nous avons le plaisir d'accueillir Roger Chudeau, qui a été sous-directeur des enseignements des écoles, collèges et lycées. Il a rejoint le cabinet ministériel de Gilles de Robien, puis du Premier ministre François Fillon, que tu as d'ailleurs soutenu lors de cette campagne présidentielle.
Le conseil scientifique est co-présidé par Patrick Louis, secrétaire général du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Son équipe est chargée de trouver des professeurs sur des critères bien précis.
Premièrement, la compétence qui doit être validée en grande partie par des titres universitaires. La deuxième chose, c'est l'expérience terrain. Nous voulons que nos intervenants ne soient pas simplement des professeurs tournesol. Et bien sûr, il faut qu'ils aient également une capacité à enseigner.
À en croire Marion Maréchal, les portes de l'ICEP ne sont pas fermées aux profs de gauche, mais ils doivent adhérer à l'esprit de l'école. La directrice de l'établissement ne cache pas son ambition. Elle veut former une nouvelle élite. Marion Maréchal a beau être en retrait du jeu politique, elle n'a pas renoncé à mener la bataille pour faire triompher ses idées.
À la SNCF, avant-dernier mouvement aujourd'hui et demain de la grève perlée qui aura tenu tout le printemps. Les syndicats auront donc finalement réussi à organiser sur 3 mois cette forme inédite de mobilisation, mais au prix d'un essoufflement du mouvement. Aujourd'hui, le taux de grévistes est passé sous le seuil des 10% d'après la direction. Bonsoir Maïwenn Bordron.
Bonsoir Benoît.
La fin d'un mouvement social pose toujours de délicates questions. En l'occurrence, les cheminots et leurs syndicats sortent plutôt lessivés de cette longue grève.
Il est loin, très loin, le premier jour de grève. Le 3 avril, le taux de grévistes était de 33,9% selon la direction, avec des pics à 77% pour les conducteurs et 69% pour les contrôleurs. Des taux qui ont baissé de plus de moitié aujourd'hui, alors que le personnel roulant, comme on l'appelle, était le plus mobilisé contre la réforme ferroviaire. Le premier facteur, c'est évidemment la durée du mouvement. 3 mois de grève et pour certains cheminots, 1 mois, voire 1 mois et demi de salaire en moins. Pas facile de poursuivre la grève à ce rythme. Une grève en pointillé, 2 jours de débrayage, 3 jours de travail, puis 2 jours de grève et ainsi de suite jusqu'au 28 juin. C'est une bataille d'usure que Sudrail voulait éviter. Le syndicat voulait privilégier une grève reconductible toutes les 24 heures pour frapper fort dès le début, mais l'unité de l'intersyndicale a finalement primé. Après 3 mois de mobilisation, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Le gouvernement n'a pas plié. Le texte de la réforme ferroviaire a été voté par l'Assemblée puis par le Sénat la semaine dernière, avec certes quelques avancées comme sur l'ouverture à la concurrence ou l'incessibilité de la SNCF inscrite dans la loi. Les syndicats réformistes, la CFDT et l'UNSA préfèrent donc arrêter la grève la semaine prochaine pour se concentrer désormais sur un autre mode d'action syndicale, le dialogue social, notamment sur le dossier des conventions collectives. La CGT et Sudrail comptent de leur côté poursuivre la grève cet été. Le front syndical se fissure, ce qui explique également le faible taux de grévistes aujourd'hui.
Merci Maïwenn Bordron. Les ministres de l'agriculture et de la transition écologique se rabibochent, du moins pour la photo. Stéphane Travert et Nicolas Hulot promettent de concert désormais de tout faire pour que l'abandon du glyphosate dans l'agriculture française soit effectif d'ici 3 ans, en compagnie d'une quarantaine d'acteurs, de syndicats agricoles, coopératives, d'acteurs de la grande distribution, millions d'instituts de recherche. Ils ont lancé une task force. Reportage d'Anne-Laure Barral.
Et pour cela, il fallait un terrain neutre, ni au ministère de l'Environnement, ni à celui de l'Agriculture, mais à une annexe de Matignon au cœur de Paris, et il fallait aussi des mots tendres.
Moi, je voudrais me réjouir qu'avec Nicolas, nous ayons ce matin effectué une très bonne réunion dans un état d'esprit le plus positif.
Merci beaucoup Stéphane. Quel changement. Quel changement en l'espace de quelques mois entre parfois des propos, des appréciations divergentes et l'unité de ton et de volonté qui ont été probablement la marque de cette réunion.
Après des mois d'affrontements sur le glyphosate, Nicolas Hulot et Stéphane Travert devaient se montrer unis sur ce dossier et pour ça, ils ont même inversé les rôles. C'est le ministre de la Transition écologique qui ouvre la porte à une prolongation du glyphosate.
Si dans 3 ans, il y a encore quelques impasses technologiques, on pourra s'accorder éventuellement 2 années supplémentaires.
Et c'est celui de l'agriculture qui parle d'environnement et des attentes de la société.
Nous voulons entraîner avec nous l'ensemble des forces du monde agricole, du monde de la recherche et du monde économique pour trouver des solutions, des alternatives au glyphosate et assurer la transition écologique, agroécologique de notre agriculture et de notre environnement.
Main dans la main donc, mais sur le fond, chacun a rappelé ses positions. On sait que sur toutes les cultures qui utilisent du glyphosate, seuls 10% sont dans une impasse technique selon un rapport de l'INRA. Mais pour le patron des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serle, il ne faut pas non plus que ces alternatives coûtent plus cher aux agriculteurs.
Il n'y a pas eu de discussion sur le délai. Aujourd'hui, il faut se mettre au travail. Et ce n'est pas le tout de dire on s'arrête dans 3 ans, c'est surtout quelles alternatives on trouve. Si on ne le fait pas avec pragmatisme et donc en étudiant pas toutes les problématiques qu'il peut y avoir économiques, sociales et aussi environnementales, si on n'étudie pas tout ça de la même manière, oui, il pourrait y avoir des grosses difficultés économiques sur les exploitations si on sort sans accompagner les agriculteurs.
Une réunion donc de la mobilisation, une réunion surtout de la réconciliation entre les deux ministres. Mais il faudra surtout que ce comité de suivi qui doit se réunir tous les 3 mois serve aux agriculteurs de terrain qui attendent de connaître les solutions à leur disposition.
Anne-Laure Barral, de nouveaux documents attribués au service secret libyen et publiés par le site internet Mediapart détaillent les préparatifs de l'attentat du DC-10 d'Utea. C'était en 1989. 170 personnes avaient trouvé la mort dans l'explosion de cet avion. Mediapart met en lumière le rôle d'Abdallah Senoussi, le beau-frère de l'ex-guide libyen Mouammar Kadhafi, et fait le lien surtout avec l'instruction en cours sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Écoutez un des auteurs de cette enquête, Fabrice Arfi.
On voit à peu près, d'après le soupçon judiciaire, quel était l'intérêt du clan Sarkozy de récupérer de l'argent pour se financer, mais quel était en contrepartie les intérêts du régime libyen d'agir de la sorte. Alors en fait, l'enquête montre qu'il y avait tout un tas de contreparties, la légitimation internationale, avoir du nucléaire civil, les ventes d'armes, les ventes de matériel d'espionnage, mais il y avait un point très particulier qui tenait très à cœur au régime Kadhafi, c'était de blanchir judiciairement Abdallah Senoussi. Et les documents que nous avons récupérés, qui sont en fait des documents issus des archives du bureau d'Abdallah Senoussi lui-même, confirment d'abord son implication personnelle dans l'organisation de l'attentat, avec des éléments nouveaux que la justice antiterroriste française ne connaissait pas, mais surtout, on découvre que un mois après la première visite de Nicolas Sarkozy à Tripoli comme ministre de l'Intérieur, où il est allé rencontrer Mouammar Kadhafi, où il y a eu, d'après la justice, des premières discussions autour d'un soutien libyen à la campagne de M. Sarkozy, un mois après, l'avocat personnel et son grand ami Thierry Herzog se rend à Tripoli pour proposer une offre de service judiciaire et expliquer comment il se dit en mesure de faire sauter le mandat d'arrêt, voire d'annuler la condamnation d'Abdallah Senoussi.
Ce sont des accusations très lourdes qui sont formulées, vouloir faire annuler une condamnation, laisser entendre aussi qu'on est finalement en mesure de le faire, on touche aux très hautes sphères de l'État.
Absolument, on est dans l'affaire de l'État, dans l'affaire de l'État, qui est proprement étourdissante, vu la gravité des faits dont on parle, hein, quand même, une démocratie stipendiée par une dictature à laquelle on va faire la guerre, d'ailleurs, quelques années plus tard. Et c'est dit, d'ailleurs, dans les documents que nous révélons, le compte-rendu que nous avons pu authentifier de manière indépendante, raconte que grâce aux liens de subornation des procureurs, et notamment des procureurs généraux en France au pouvoir exécutif, au savoir-faire politique de Thierry Herzog, on va pouvoir annuler toute ou partie des procédures. Et d'ailleurs, Maître Herzog est connu pour ça. Et je vais même plus loin. Maître Herzog est aujourd'hui mis en examen avec Nicolas Sarkozy pour corruption dans un autre dossier, qui est le dossier Paul Bismuth, qui montrait comment il arrivait à intriguer avec les plus hautes sphères de la magistrature en faveur de ses clients, non pas dans le respect de la procédure, mais pour ce que des magistrats estiment être de la corruption et du trafic d'influence.
Des propos recueillis par Florence Turm. La météo demain samedi sera encore une belle journée à peu près partout. Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 degrés au nord, jusqu'à 30 degrés sur le sud.